Radio France Internationale, il est 10h à Paris, 8h en temps universel. Le journal avec Simon Bourtembourg.
Et à la une, Washington menace de se retirer des négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine. Donald Trump réclame des progrès rapides dans les discussions entre Kiev et Moscou. La lassitude semble donc gagner la Maison-Blanche, nous le verrons. En Tunisie, l'issue d'un procès inédit pour complot contre le président Kais Saied. Les peines sont lourdes, jusqu'à 66 ans de prison pour certains opposants. Les avocats de la défense dénoncent un simulacre de procès. Rendez-vous entre les délégations américaines et iraniennes à Rome. Les pourparlers doivent commencer dans quelques minutes. Il sera à nouveau question du nucléaire iranien. Et puis, l'Inde et le Pakistan écrasés par une vague de chaleur. Le thermomètre a flirté avec les 50 degrés. Des températures extrêmes qui sont, nous le verrons, la conséquence du changement climatique. Menace ou bluff, Donald Trump est passé maître en la matière et il le prouve à nouveau. Près de 100 jours après son retour à la Maison-Blanche, le républicain assure que les États-Unis se retireront des négociations sur l'Ukraine, faute de progrès rapides. Changement de position donc pour le président américain qui avait promis pendant sa campagne de mettre fin au conflit, et ce en 24 heures. Pour Washington, le temps presse et Yelena Tomic, l'administration américaine semble perdre patience.
Après Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, qui avait prévenu hier qu'il était temps de faire des avancées concrètes concernant le cessez-le-feu en Ukraine, après 87 jours de tentatives infructueuses du gouvernement pour parvenir à un accord, c'est au tour de Donald Trump de taper du poing sur la table.
Si pour une raison quelconque, l'une des deux parties rend les choses très difficiles, eh bien nous dirons simplement « vous êtes stupides, vous êtes des imbéciles, vous êtes des gens horribles » et nous passerons à autre chose. Mais espérons que nous n'aurons pas à le faire. Et Marco a raison de dire que nous voulons en finir. Pensez-y, chaque jour de nombreuses personnes sont tuées pendant que nous parlons. Nous n'allons donc pas accepter cela et nous verrons bien. Je pense que nous avons de bonnes chances de résoudre le problème.
Malgré les menaces, signe d'agacement tout autant vis-à-vis de Kiev que de Moscou, le président américain laisse une porte ouverte, espérant clore un dossier qui lui tient à cœur. Son vice-président, J.D. Vance, avait précédemment dit être optimiste sur ces négociations, une manière de ne braquer aucune des parties et de pousser Moscou au cessez-le-feu et Kiev à faire des concessions.
Et en matière de politique intérieure, l'administration Trump braque les projecteurs sur le président de la Banque centrale américaine. Après avoir engagé son pays dans une guerre tarifaire chaotique, le président américain semble prêt à tout pour obtenir une baisse des taux d'intérêt, ce que le dirigeant de la Fed se refuse pour l'heure à faire. Donald Trump va donc jusqu'à évoquer un limogeage de Jérôme Powell, dirigeant de la Fed. Des peines allant de 13 à 66 ans de prison. Dénouement en Tunisie dans le procès pour complot présumé contre la sûreté de l'État. 40 personnes étaient accusées d'avoir participé à un complot pour déstabiliser le pouvoir en place. Les peines sont donc très lourdes, mais les avocats de la défense attendent encore les détails du jugement qui s'inscrit dans un procès qui n'a quasiment jamais vraiment eu lieu. Les trois seules et uniques audiences ont été consacrées aux prises de parole des représentants de la défense. Ce fut encore le cas hier, avant l'annonce du verdict ce matin. Un reportage à Tunis, signé Lilia Bless.
Devant le tribunal de Tunis, en fin d'après-midi, les avocats crient leur colère. Ils ont passé la journée à confronter le juge de l'affaire du complot sur plusieurs problèmes procéduraux. Après trois interruptions, un conflit ouvert a éclaté lorsque le juge a décidé d'outrepasser une procédure en cassation de certains accusés, selon le récit des avocats. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. D'après l'avocat Youssef Béji, il s'exprime avec ses collègues dans un point presse devant le tribunal.
Aujourd'hui, dans un pays qui s'appelle la Tunisie, on ne peut pas parler d'un procès équitable. Depuis l'ouverture de cette affaire du complot, nous, en tant qu'avocats, nous subissons des intimidations. On nous dit de nous taire, on nous écarte de certains éléments du dossier, et là, même les journalistes n'ont pas pu entrer à part un ou deux Tunisiens. Pourquoi tout ça ?
Pour les familles des détenus, la lassitude et la frustration ont pris le dessus sur la confiance dans le système judiciaire. Faïza Chebbi est l'épouse de l'un des prisonniers, Issam Chebbi.
Aujourd'hui, quand je vois que mes fils n'ont pas le droit d'entrer au procès avec moi, je comprends qu'il y a un manque de transparence, que les autorités ne veulent pas que ce procès soit public, ni que les Tunisiens connaissent la vérité sur ce dossier.
Les avocats et les familles dénoncent un procès expéditif qui risque de déboucher sur des sentences lourdes. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
C'est une question de minutes si l'on en croit la télévision d'État iranienne. Les discussions entre Téhéran et Washington vont débuter à Rome en Italie. Le dossier du nucléaire iranien est donc une nouvelle fois sur la table après de premiers pourparlers. C'était la semaine dernière à Oman qui reste toujours médiateur sur le dossier. L'Iran qui dénonce par ailleurs des frappes américaines barbares au Yémen. Les images de corps baignant dans des flaques de sang sont diffusées en boucle par la chaîne de télévision contrôlée par les Houthis au Yémen. Des frappes américaines ont en effet visé jeudi le port pétrolier stratégique de Ras Issa. Et d'après un dernier bilan communiqué par les rebelles soutenus par l'Iran, 80 personnes sont mortes dans cette attaque qui devient donc la plus meurtrière depuis le début de la campagne militaire américaine il y a 15 mois contre les Houthis. Cette opération qui avait été lancée à l'origine pour protéger le trafic maritime en mer Rouge des attaques de rebelles yéménites. Et cela porte ses fruits, Alexandre Bouchanti.
Selon l'amiral Osama Arabia, le trafic dans le canal de Suez a connu en mars une amélioration de plus de 3% par rapport à janvier-février, une période qui a succédé à la prise de pouvoir par le président américain Donald Trump et par sa décision de lancer une vaste offensive contre les Houthis au Yémen. Une offensive qui a détourné la plupart des tirs de drones et de missiles des navires civils vers la flotte américaine. Les attaques Houthis contre la navigation en mer Rouge ont commencé après l'offensive israélienne contre Gaza en octobre 2023. Elles ont fait baisser de moitié le nombre de navires empruntant le canal de Suez, a précisé l'amiral. Une baisse qui s'est traduite par un manque à gagner de 7 milliards de dollars pour l'Égypte. Mais l'amiral est optimiste. Il pense que la navigation reviendra à la normale avant la fin de l'année. Alexandre Bouchanti, Le Caire. RFI.
Il y a 10 jours, il annonçait son retour prochain au pays. Eh bien, c'est désormais chose faite. Joseph Kabila s'est rendu hier à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'information a été confirmée à RFI par 2 sources proches de l'AFC M23 et une source issue de l'entourage de l'ancien chef de l'État. Joseph Kabila serait ainsi passé par Kigali avant de rejoindre la capitale du Nord Kivu. À l'heure actuelle, nul ne sait où se trouve l'ancien président congolais, mais son entourage évoque la diffusion prochaine d'un message à la nation. L'Inde et le Pakistan écrasés par une vague de chaleur. En début de semaine, dans la province du Baloutchistan, le thermomètre a atteint 49 degrés, à peine moins à New Delhi, où il a fait plus de 40 degrés. Des températures à peine supportables, puisqu'à ce niveau de chaleur, le corps n'arrive plus à transpirer et donc à se refroidir. Et selon Climamater, ces épisodes de canicule vont se multiplier, et ce, du fait du réchauffement climatique. Pauline Berger.
Le changement climatique est la principale cause des récentes fortes chaleurs en Inde et au Pakistan, selon Climamater. Sur les journées des 14 et 15 avril, la moyenne des températures dans les deux pays a été 4 degrés supérieure à la période référence, comprise entre 1950 et 1986. Des vagues de chaleur qui vont se multiplier à l'avenir, selon Davide Faranda, co-auteur du rapport.
Si on fixe un seuil de température, on va observer des dépassements de ces seuils de façon de plus en plus fréquente dans les prochaines années. Et on s'attend en fait à vivre avec des méga vagues de chaleur qui vont intéresser tous les tropiques et qui vont durer même plusieurs semaines.
Pour l'Inde et le Pakistan, cette vague de chaleur était précoce. Climamater prévoit d'ailleurs que ces épisodes surviennent de plus en plus tôt, une menace pour des millions d'êtres humains.
Oui, on peut déjà dire que ces zones deviennent inhabitables. Les personnes qui se trouvent dans ces zones humides tropicales sont en danger. En fait, il y a des centaines de millions de vies qui sont à risque déjà dans le climat actuel. Ça s'empire chaque année un peu plus.
Ces vagues de chaleur ne touchent pas tout le monde de la même façon. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles travaillant à l'extérieur sont les plus vulnérables.
Aux États-Unis, l'exécutif attribue l'origine du Covid-19 à un laboratoire chinois. La théorie contestée de la fuite de laboratoire est donc désormais présentée comme la véritable origine du virus. Une page du site de la Maison-Blanche liste 5 arguments en ce sens. Pékin accuse les États-Unis de politiser et d'instrumentaliser la question de la recherche des origines de la pandémie. RFI, il est 10h, bientôt passé de 10 minutes. Ici à Paris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.